Je vous invite à reprendre place et nous écoutons le texte du jour qui se trouve dans l'évangile selon Luc, au chapitre 20, les versets 27 à 40. Quelques sadducéens vinrent auprès de Jésus, ce sont eux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection. Ils l'interrogèrent de la façon suivante. « Maître, Moïse a écrit pour nous, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme sans enfant, il doit épouser la veuve pour donner une descendance à celui qui est mort. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve, puis le troisième. Il en fut de même pour tous les sept, qui moururent sans laisser de descendance. Finalement, la femme mourut à son tour. À la résurrection des morts, de qui sera-t-elle l'épouse? Car tous les sept l'ont eue comme épouse. » Jésus leur répondit, « Les hommes et les femmes de ce monde-ci se marient, mais les hommes et les femmes qui sont jugés dignes de ressusciter d'entre les morts et de vivre dans le monde à venir ne se marient pas. Ils ne peuvent plus mourir. Ils sont pareils aux anges. Ils sont enfants de Dieu car il les a ressuscités. Moïse indique clairement que les morts doivent ressusciter dans le passage qui parle du buisson. » Il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car tous sont vivants pour lui. Quelques spécialistes des Écritures prirent alors la parole et dirent « Tu as bien parlé, maître !» Et ils n'osaient plus lui poser d'autres questions. Nous voici réunis aujourd'hui pour parler de beaucoup de choses, certainement d'organisation, de budget, de projets culturels, bien sûr, mais pas que. Nous sommes là aussi pour réfléchir à ce qui nous relie, entre nous sans doute, mais ce qui relie ce que nous faisons dans ces murs à ceux du dehors. Une foi qui se veut vivante et qui se confronte sans cesse aux questions du monde, c'est ce que nous essayons de faire. Et c'est pourquoi le texte de Luc d'aujourd'hui nous parle particulièrement aujourd'hui. Ce n'est pas évident au premier abord de faire le lien entre les activités de la JVC et les Sadducéens. Mais vous verrez, on y vient. Les Sadducéens donc, ce sont des hommes instruits, des religieux cultivés, donc des gens qui normalement parlent et disent des choses sérieuses, sauf ici peut-être. Ils ont choisi la voie risquée de la blagounette. Il représente peut-être aussi cette part de nous-mêmes qui, devant ce qui est inacceptable, pas forcément rationnel, nous déplace de l'endroit où nous avons l'habitude de parler et de vivre, représente une forme d'exotisme pas tentant au premier abord. Il est difficile de refaire son sac et de se remettre en route. Ils sont pour nous ce qui, chez nous, lève un sourcil de temps en temps pour demander des preuves, pour avoir des explications cohérentes. Nous aussi, nous en voulons. Et pour piéger Jésus, il lui présente une énigme absurde. La femme mariée successivement à sept frères, selon une loi qui est parfaitement écrite quelque part, hein, dans la Torah, qui est celle du Lévirat. Il faut susciter une descendance à cette femme et il faut au moins sept frères pour essayer d'y arriver. La question de savoir si cette femme finit par mourir parce qu'elle en a eu assez d'avoir les sept frères l'un après l'autre n'est pas tranchée dans ce texte, mais ce n'est pas le seul piège possible dans la blague carambare des Sadducéens. Il y a une manière de tourner en dérision une croyance, une affirmation à laquelle on n'adhère pas soi-même, peut-être parce qu'on ne l'a pas comprise ou parce qu'elle ne colle pas avec ce qu'on a l'habitude d'imaginer, avec sa représentation des choses. Et faute d'avoir des contre-arguments, les Sadducéens font comme nous, on dénigre ou on ridiculise la position de l'adversaire, on n'en a pas fini totalement et on n'est pas venu à bout de sa position, mais avec le marteau et le burin, on l'a déjà un peu entamé. Voilà, c'est toujours ça de prix. Les Sadducéens veulent montrer que la foi en la résurrection n'est pas logique et compatible avec les réalités humaines, ce en quoi ils ont un peu raison, tout de même. Mais Jésus, au lieu de débattre sur leur terrain, évite de tomber dans le piège de se laisser enfermer dans leur logique, ou d'une manière générale, dans la logique. Il ouvre plutôt une autre piste en disant « les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui seront jugés dignes d'avoir part au monde à venir ou de ne jamais mourir, de ressusciter, d'avoir part à l'éternité, ne prennent pas d'époux, d'épouse, ne sont pas pris en mariage, etc. » Et un peu plus loin, « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car pour lui, tous sont vivants. » C'est ça la réponse. Et je ne sais pas si vous l'avez senti en réentendant le texte, mais entre la blague des Sadducéens et la réponse de Jésus, on sent que ça ne répond pas, hein, ça ne correspond pas du tout. Les Sadducéens posent une question sur la mécanique, sur le comment ça marche de la résurrection. Jésus leur parle du sens de la vie donné par cette éternité, cette résurrection qu'on injecte dans la vie. Il ne parle pas du comment. Il leur dit en somme, vous pensez la résurrection comme le prolongement du monde que vous connaissez, avec ses procédés, ses structures, ses instances, ses identités, ses appartenances, enfin toutes ces choses figées dont on peut facilement faire un dessin ou un croquis. Mais le monde de Dieu, lui, est plus fluide. Vous ne pourrez pas le capter de cette manière. Ce n'est pas une pâle copie d'une autre non plus. Ce n'est pas le théâtre de nos petites logiques, ni la projection de nos institutions. C'est autre chose. Il ne les méprise pas et il ne méprise pas leur intelligence en faisant ce qu'il fait. Il aurait pu envoyer une contre-blague. Ce n'est pas ce qu'il fait. Il prend leur blague au sérieux et il leur répond sérieusement. Ce que je vous dis est profondément libérateur. Écoutez, laissez-moi poser mon doigt sur votre menton et vous faire regarder un peu ailleurs. C'est ce que vous avez manqué. Et comme vous êtes intelligent, vous le verrez. Je ne suis pas en train de vous proposer un contre-processus, un contre-mécanisme. Je vous connais et je vous fais confiance. Vous pourriez démonter une montre, étaler les engrenages et la remonter, donner un petit coup sur le remontoir et voir la trotteuse repartir. Vous êtes expert, je vous fais confiance. Ce n'est pas ça que j'attends de vous. Je vous rappelle à vous, et il nous rappelle à nous, que la foi consiste à, non pas à défendre des systèmes ou des choses figées, mais à ouvrir des espaces de liberté, des choses qui n'existent pas encore ou qui se feraient un passage dans une petite brèche. Laisser Dieu redéfinir, finalement, ce que vivre veut dire. Dans une église comme la nôtre, nous savons que cette ouverture est précise. Nous ne cherchons pas à imposer des certitudes, ni à l'intérieur de nos murs, ni à l'extérieur, quand nous nous y trouvons. Mais créer plutôt un lieu où la question peut vivre. La recherche de sens a toute sa place. Jésus ne condamne pas les Sadducéens, il n'insulte pas leur intelligence, il les invite à élargir simplement leur horizon. C'est comme quand nous sortons de nos murs pour faire quelque chose qui a trait à la culture qui est la nôtre, mais aussi celle des autres. Jésus dit « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants », c'est bien une affirmation théologique forte, mais existentielle aussi. Ce n'est pas qu'une idée, c'est une façon de faire. Elle n'est pas d'abord, Dieu n'est pas d'abord celui qui règne dans un autre monde, il est plutôt celui qui fait vivre maintenant, dans ce monde-ci. Pour Jésus, tous sont vivants, même ceux qui ne le sont plus à leurs propres yeux, même ceux qui ne le sont plus à nos propres yeux, ceux pour qui on estime qu'il n'y a plus rien à faire. Personne n'est en dehors de cette promesse. Les yeux de Dieu ne sont pas limités ni par la biologie, ni par l'histoire. Ce qui a été vécu dans l'amour, dans la justice, dans la recherche de vérité, demeure vivant. Hier après-midi, nous regardions à nouveau cette pièce où, par espérance, par une foi indéracinable, des gens ont pris la parole au fond de leur prison pour affirmer une espérance indéfectible. C'était en 1768. Ce n'est pas le dernier cri, ça fait longtemps. Mais ça a été vivant pour eux. Et si nous reprenons un peu le même type de discours, que nous prenons la même résistance qu'eux, cette parole redevient vivante pour nous aussi. Elle ne meurt pas. C'est cela, ressusciter. C'est une espérance qui se faufile et qui, même sortie d'un passé assez lointain, peut encore être vivifiante ou donner la vie aujourd'hui. Toute activité culturelle, qu'il s'agisse d'art, de musique, de pensée, de dialogue, participe à l'œuvre de la vie et se rapproche de la réponse de Jésus, beaucoup moins de la question des Sadducéens. La culture, dans son sens noble, c'est déjà un geste de résurrection. Et si nous comprenons cela, alors nous savons que nous avons raison de nous adresser à nos voisins, à nos contemporains de cette manière. Dieu des vivants, ça veut dire Dieu d'une parole partagée, Dieu de la création, Dieu de l'esprit qui se renouvelle. Les Sadducéens ont posé une question intellectuelle. Et Jésus leur a répondu sans mépriser leur intelligence. Il ne leur dit pas « arrêtez de poser des questions, croyez seulement, rejoignez-nous, soyez pieux, priez, etc. Faites telle posture, tel geste, et ça ira. » Il les invite à penser encore, mais penser autrement. Déplacer la logique qui est la leur vers une autre logique, peut-être parallèle à la vie qu'ils ont l'habitude de se figurer, mais logique tout de même. Et c'est un défi pour notre Église, il faut tenir ensemble les raisons de la raison et les raisons de la foi qui amènent vers l'espérance. Dans notre Église, nous affirmons que la foi n'est pas une abdication de l'intelligence, c'est une confiance lucide, éclairée, ouverte et qui ne renonce pas à réfléchir. Elle ne s'oppose pas à la culture parce qu'elle en a besoin. Comment parler aux autres sans parler leur langage ? Voilà pourquoi la culture n'est pas accessoire dans notre Église, elle est elle aussi un lieu théologique, une manière d'empoigner la réponse de Jésus dans ce texte et d'en faire quelque chose dans notre aujourd'hui. Et d'annoncer un Dieu qui n'appartient à personne, mais qui fait surgir la vie là où on ne l'attend pas, où on ne l'attend plus. Il y a dans ce passage une dimension d'humour discret. Évidemment, les Sadducéens croient piéger avec leur histoire absurde, un Jésus qui semble un peu croulé sous le nombre. Mais Jésus répond en les dépassant totalement. Il prend leur ironie au sérieux aussi, d'une certaine manière, et la transforme en un moment qui est révélateur pour eux. Peut-être que c'est aussi une leçon pour nous. Une église culturelle est aussi quelqu'un qui, un collectif qui sait accueillir l'ironie des autres, leurs questions parfois un peu acerbes, leur « je ne crois plus en ceci ou en cela », non pas comme une menace ou comme une provocation gratuite, mais comme quelque chose qui nous adresse à tous, à eux comme à nous, la même question, à charge pour nous peut-être d'y répondre avec eux. Le rire, l'ironie, l'art, la critique sont parfois des chemins de vérité. Jésus dit « pour Dieu, tous sont vivants ». C'est la dernière phrase et probablement la plus importante de ce passage. C'est une invitation à une culture de la vie, pas au sens biologique ou moral, mais au sens spirituel. Une culture qui refuse le désespoir, la résignation ou le cynisme, qui fonctionnent très bien d'ailleurs, et qui sont des mécanismes très difficiles à mettre à déplacer. La division culturelle, si on peut l'appeler comme ça, le service culturel de l'Église, a précisément cette vocation, je crois, faire vivre cette parole d'espérance, donner à voir que la foi se déploie dans ce qui est intelligent, dans ce qui est beau, et dans ce qui se joue dans les rencontres. Nous sommes, d'une certaine manière, les artisans dans ce que nous faisons de cette résurrection quotidienne. Chaque fois qu'on organise une exposition, un concert, une conférence, un atelier, nous disons, au fond, la vie continue, s'invente, se partage, et c'est là peut-être l'une de nos plus belles prédications. Celle qui se fait pardon, sans mots, sans gestes, mais avec les autres gestes de la culture et de la foi mêlés étroitement. Ce passage de l'Évangile ne nous invite pas à débattre d'une vie après la mort, mais nous aurions pu lire ce passage dans n'importe quelle autre circonstance. Il aurait fallu de toute façon dire la même chose. Pas d'invitation à un débat sur l'après, mais la reconnaissance de la présence de la vie déjà maintenant. C'est ce que nous faisons dans nos activités culturelles comme dans le reste. La résurrection n'est pas un phénomène futur, c'est une manière d'habiter le présent. Et cela, nous avons à le vivre et à le partager entre nous et avec d'autres, une foi qui n'enferme pas. Alors que cette assemblée, l'assemblée que nous formons, que notre assemblée générale aussi, où nous faisons le point sur nos projets, où nous en formons d'autres, soit justement ce lieu de vie, de pensée et de joie. le Dieu qui nous appelle à créer, à aimer, à croire encore, est celui qui pour tous est et reste vivant. Amen.